Questo nutrito applauso, professor Tide, dimostra molto chiaramente con quale interesse e attenzione sia stata seguita la sua relazione. Come preannunciato, do ora la parola al professor Tresmontant.
L'intention de vous proposer la démonstration du fait que les quatre évangiles sont des traductions mot à mot et littérales de textes hébreux antérieurs.
Vi propongo la dimostrazione del fatto che i quattro Vangeli sono delle traduzioni letterali, parola per parola, di testi ebraici anteriori.
Il existe plusieurs démonstrations indépendantes les unes des autres.
Esistono di questo varie dimostrazioni indipendenti le une dalle altre.
Ces démonstrations sont parfaitement compréhensibles pour des enfants de 12 ans qui ont étudié les éléments de la théorie des ensembles.
Dimostrazioni perfettamente comprensibili per bambini dell'età di 12 anni che abbiano studiato i fondamenti della teoria degli insiemi.
Il n'est pas nécessaire de connaître ni l'hébreu ni le grec pour suivre la démonstration qui, comme vous allez le voir, est d'une simplicité candide.
Non è infatti necessario conoscere né l'ebraico né il greco per seguire questa dimostrazione che, come vedrete, è di una semplicità estrema.
La première démonstration s'établit à partir du lexique hébreu-grec.
La prima dimostrazione si stabilisce a partire dal lessico ebraico-greco.
Alors, ceci, c'est la Sainte Bibliothèque hébraïque que les Français appellent généralement l'Ancien Testament, ce qui n'est pas très courtois.
Questa è la Santa Biblioteca Ebraica, che i francesi chiamano normalmente Vecchio Testamento, una definizione forse non molto cortese.
Cette bibliothèque a été composée, comme vous le savez, pendant plusieurs siècles. Elle a été achevée peut-être ou sans doute au IIe siècle avant notre ère.
Questa biblioteca si è costituita, come voi sapete, nel giro di vari secoli e si è conclusa probabilmente, o forse senza dubbio, intorno al XII secolo avanti Cristo.
Il existe une science depuis trois siècles au moins qui étudie cette bibliothèque et qu'on appelle la critique biblique.
Esiste una scienza chiamata critica biblica che studia proprio questa biblioteca da circa tre secoli.
Alors ceci, cet objet-là, c'est la traduction en langue grecque de la Sainte Bibliothèque hébraïque.
Questa cosa è la traduzione in lingua greca della Santa Biblioteca ebraica.
Cette traduction grecque dite des Septante, à cause d'un conte de nourrice auquel je ne crois pas du tout, a été composée, à mon avis, a été commencée, à mon avis, à partir du 5e siècle avant notre ère.
Questo testo, chiamato dei 70, traduzione definita dei 70, in seguito ad un racconto, una specie di favola alla quale io non credo per nulla. Essa, infatti, è stata composta a partire dal V secolo avanti Cristo.
Alors, cette traduction comporte plusieurs caractères notables.
Questa traduzione comporta vari aspetti notevoli.
Premièrement, les mots grecs de cette traduction, les mots grecs, sont les mots de Platon, de Sophocle, d'Eschyle et d'Euripide, comme vous pouvez tous le vérifier en vous achetant cette traduction et en prenant votre dictionnaire grec.
In primo luogo, come potete tutti verificare semplicemente acquistando questa traduzione e confrontandola con un vocabolario greco, essa contiene le parole greche che sono state di Latone, di Eschilo, di Euripide.
Ce n'est donc pas, contrairement à ce qu'on a raconté souvent, la langue des marchands, des dockers, des marins, des soldats et des prostituées de Corinthe.
Allora non è, come si è detto così spesso, la lingua semplice dei mercanti, degli scaricatori di porto, dei marinai, dei soldati e delle prostitute di Corinto.
Deuxième caractère de cette admirable traduction, infiniment précieuse, c'est une traduction mot à mot, qui suit le texte hébreu mot à mot.
Seconda caratteristica di questa traduzione infinitamente preziosa è che si tratta di una traduzione parola per parola, che segue parola per parola il testo ebraico.
Et donc, on peut suivre avec le doigt le texte hébreu, Bereshit, Bara, Elohim, et Tachamaim, et Taretz, Enarke, et Poyesen, Oteos, Touranon, Ketengen. On peut suivre avec les deux doigts l'hébreu et le grec.
Ecco una citazione dei due testi, ebraico e greco, che ci mostra come sia possibile seguirli entrambi con le dita.
Pourquoi donc cette traduction a-t-elle été faite de cette manière étonnante? C'est-à-dire, pourquoi est-elle une traduction mot à mot qui suit l'hébreu pas à pas?
Ma perché si tratta di una traduzione letterale così precisa, parola per parola, che segue l'ebraico in tutte le sue espressioni?
Alors, très vraisemblablement, parce qu'elle était destinée aux frères et aux sœurs des communautés hébraïques de la diaspora, qui ne connaissaient plus très bien leur hébreu et qui avaient besoin de cette traduction pour suivre le texte hébreu lorsqu'on leur lisait la Sainte Torah à la Beit Knesset, la maison de réunion, la synagogue, et donc pour voir, avoir cette traduction mot à mot qu'on appelle aussi, qui est aussi une traduction littérale. Une traduction, ce qu'on appelle en France une traduction juxtalinéaire.
Probabilmente questa traduzione è giustalineare, come vengono definite le traduzioni letterali di questo tipo, perché era stata concepita ad uso dei fratelli e delle sorelle ebraiche della diaspora, i quali vivevano dispersi in varie zone e non conoscevano più molto bene la lingua ebraica di cui si servivano inizialmente. Per questo motivo si era concepita una traduzione che permettesse loro di seguire parola per parola ogni aspetto della Santa Torah che commentavano nella cosiddetta casa delle riunioni, la sinagoga.
Puisque le texte grec suit l'hébreu mot à mot et pas à pas, rien n'est plus simple que de reconstituer le lexique hébreu-grec qui a servi aux inconnus qui ont traduit la bibliothèque hébraïque de l'hébreu en grec.
Poiché si tratta di una traduzione che segue parola per parola la lingua ebraica, dunque il greco è costruito sulla base della lingua ebraica, niente è più semplice per ricostruire il tutto che utilizzare il lessico greco-ebraico.
Marche pas, pas ça. Merci. Ça marche pas non plus.
Non funziona. Adesso sì.
Alors, lorsqu'on...
Bon, faut que je trouve, moi, c'est...
Lorsqu'on reconstitue ce lexique hébreu-grec traditionnel, on trouve plusieurs cas. Le premier cas, le plus général, un mot hébreu correspond à un mot grec.
Quando si ricostituisce questo lessico, si trovano tre casi differenti. Nel primo caso, il più comune, ad ogni parola ebraica corrisponde una parola greca.
Alors, un exemple ou deux. Ceci, c'est l'ensemble H des mots hébreux de la Sainte Bibliothèque hébraïque, et ceci, l'ensemble G des mots grecs de la traduction grecque de la Bible hébraïque.
Questo è un esempio, il primo preso dalla... dal testo ebraico, il secondo dalla traduzione greca.
Alors, un exemple ou deux, donc vous avez par exemple l'hébreu Elohim se traduit en grec par Oseos, l'hébreu Hashamaim se traduit en grec par Uranos, et ainsi de suite, vous avez donc des centaines de cas.
Ecco due casi di termini ebraici indicati nello schema con la lettera H, a cui corrisponde ad ognuno un termine greco indicato con lo schema con la lettera G.
Alors, le deuxième cas, un mot hébreu correspond à plusieurs mots grecs.
Nel secondo caso, ad una sola parola ebraica corrispondono più parole greche.
Alors, je prends un exemple. L'hébreu Eved, qui signifie l'esclave.
Consideriamo ad esempio la parola ebraica Eved, che significa lo schiavo.
A été traduit en grec par Pais, par Therapon, Oiketes et Doulos.
È stata tradotta con questi quattro termini in lingua greca.
Donc les traducteurs à travers les siècles ont utilisé cette possibilité du lexique hébreu-grec et ils ont choisi le mot grec qu'ils préféraient.
Dunque i traduttori nel corso dei secoli hanno sfruttato le quattro possibilità offerte dal lessico greco-ebraico e hanno scelto quella che secondo loro era più adatta.
Le troisième cas qui se présente a plusieurs mots hébreux correspond à un seul mot grec.
Nel terzo caso che si presenta, a più parole ebraiche corrisponde una sola parola greca.
Un exemple, vous avez les mots hébreux de la racine meler, qui veut dire régner, et qu'on peut traduire par le royaume, la royauté, le règne, etc., qui ont une seule traduction en grec, c'est basileia. Et donc, l'hébreu, dans ce cas-là, est plus riche que le grec, et il n'y a qu'un seul mot grec pour traduire plusieurs mots hébreux.
Ancora un esempio, varie parole ebraiche derivate dalla radice malak, che significa regnare, parole che hanno significati vari del tipo regno, reame, eccetera, sono tradotte da un'unica parola greca, basileia.
Quatrième cas, un mot ebreu ne correspond aucun mot en grec, naturel.
Nel quarto caso, ad una parola ebraica non corrisponde nessuna parola greca in greco naturale.
Alors dans ce cas, les traducteurs ont utilisé deux méthodes.
In questo caso i traduttori hanno fatto ricorso a due metodi differenti.
La première méthode, c'est celle de la transcription des mots hébreux en caractère grec.
Il primo metodo consiste nella traslitterazione di una parola ebraica in caratteri greci. È necessario forse illuminare un po' meglio la sala così nessuno si preoccupa. E nessuno si addormenta anche.
Allora, esempio. L'ebreu Shabbat. L'ebreu Shabbat a été transcrit en grec par sabbata.
Prendiamo un esempio della parola ebraica Shabbat che è stata trascritta in greco nella forma sabbata.
L'ebreu Pesach a été transcrit en grec par Pascha.
L'ebraico Pesach è divenuto in greco Pascha.
L'ebreu Man a été transcrit en grec par Mana.
Man in ebraico è diventato Mana in greco.
L'ebreu Satan a été transcrit en caractère grec et ainsi de suite.
Satan è stato trascritto tale quale in lettere greche e così via.
Alors dans ce cas, deuxième solution, c'est les traducteurs hébreux ont inventé, ont forgé ou fabriqué des mots grecs qui n'existent pas en grec naturel.
In questo caso abbiamo visto come i traduttori abbiano fatto ricorso a parole inventate da loro stessi in greco per tradurre una parola ebraica, parole greche che non esistevano nel greco naturale.
Alors, ils ont forgé des mots parce que, en particulier pour traduire tous les termes de la liturgie ébraïque, tous les termes qui ne correspondaient à rien dans la langue grecque naturelle. Alors, j'ai une série d'exemples ici que je passe pour ménager votre patience.
L'hanno fatto soprattutto per tradurre termini che si riferivano alla liturgia ebraica, perché non vi erano parole in uso nel greco naturale utili per questo scopo. Eviterò una serie di esempi.
Je prends cependant un exemple, le verbe hebreu kashal.
Prendo però un esempio del verbo ebraico kashal.
Le verbe hebreu kashal, qui signifie buter sur un obstacle. Qui fait tomber.
Cachal significa inciampare contro un ostacolo che ci fa cadere.
On a forgé un verbe grec qui est le verbe grec skandalizein, qui n'existe pas en grec naturel.
Si è forgiato su questa radice un verbo greco skandalizein che non esiste in greco naturale.
Le mot hébreu mikshol formé à partir du verbe cachal signifie l'obstacle que l'on met devant un aveugle pour le faire tomber. Il a été traduit par un mot grec qui a été forgé, qui est scandalon.
La parola ebraica derivata da questa stessa radice mikshol significa l'ostacolo che si pone davanti al cieco per farlo cadere. Questa parola, che non esisteva in greco naturale, è stata tradotta con il termine scandalon.
Alors j'ai d'autres exemples à votre disposition si vous me les demandez. Cinquième cas.
Vi sono altri esempi a vostra disposizione se desidererete approfondire. Passiamo però nel frattempo al quinto caso.
Le cinquième cas, un mot grec ne correspond aucun mot en hébreu.
Nel quinto caso, ad una parola greca non corrisponde alcuna parola ebraica.
C'est très fréquemment le cas pour le verbe être, parce que l'hébreu se passe du verbe être comme copule. Et donc, la traduction grecque ajoute le verbe être constamment.
Questo succede molto spesso nel caso del verbo essere. La lingua ebraica, infatti, non utilizza il verbo essere quando esso compare sotto forma di copula. In greco, invece, viene introdotto il verbo essere.
En hébreu, il n'y a pas le verbe avoir. Et donc, pour dire en hébreu « j'ai une vigne », on dit en hébreu « une vigne est à moi ».
In lingua ebraica non esiste inoltre il verbo avere, e si dice invece essere di, perciò per dire io ho una vigna, in una vigna è mia.
Alors, ceci c'était la majeure du raisonnement.
Questa è la parte maggiore del ragionamento, della dimostrazione.
Si maintenant vous lisez les évangiles de Matthieu, de Marc, de Luc, de Jean, l'Apocalypse, une grande partie du livre des Actes, la lettre aux Hébreux, etc., en grec, vous observez aussitôt que tout ce que je viens de vous dire, vous le retrouvez.
Se ora doveste leggere uno qualunque dei Vangeli, oppure l'Apocalisse, o certe parti degli Atti degli Apostoli in greco, vi rendereste conto molto facilmente della veridicità di quanto abbiamo dimostrato.
Vous voyez aussitôt que les quatre évangiles ont été écrits avec le lexique hébreu-grec traditionnel dont je viens de vous décrire les caractéristiques.
Potrete subito vedere che i quattro Vangeli sono stati scritti utilizzando il lessico ebraico-greco tradizionale come vi ho descritto.
Nous retrouvons les cinq cas de figure que nous avons relevés. Premier cas, un mot hébreu correspond à un mot grec et la correspondance est constante, c'est la même.
Ritroviamo i cinque casi prima citati. Nel primo caso ad una parola ebraica corrisponde una parola greca e si tratta di una corrispondenza bionivoca continua.
Le deuxième cas, un mot hébreu corrisponde plusieurs mots grecs, è particolarmente intéressant pour étudier ce qu'on appelle le problème synoptique.
Il secondo caso, quello in cui ad una sola parola ebraica corrispondono varie parole greche, è molto interessante per quello che si definisce l'aspetto sinottico.
Alors, nous reprenons l'exemple de tout à l'heure. L'hébreu Eved signifie l'esclave. Il est traduit en grec par Païs, par Thérapone, par Oiketes et par Doulos. Et on voit que le même récit, les mêmes paroles sont traduites différemment. Matthieu utilise plus volontiers, le traducteur de Matthieu utilise plus volontiers le terme grec païs. Le traducteur de Jean utilise volontiers doulos. On trouve oiketes chez Luc, thérapone dans la lettre aux Hébreux. Et donc, on peut ainsi comprendre pour quelles raisons des textes qui rapportent exactement la même parole, ont des mots grecs différents.
Nel caso in cui ad una sola parola ebraica corrispondono varie parole greche, possiamo riprendere l'esempio prima citato di Eved, che in ebraico significa schiavo. Questa parola è stata tradotta con parole greche diverse nei vari Vangeli e nei vari testi. Ad esempio il traduttore di Matteo ha preferito il termine Pais, il traduttore di Giovanni il termine Doulas, il traduttore di Luca un altro termine ancora, mentre nella lettera agli ebrei troviamo il termine terapon, e si comprende così alla luce del testo stesso come una unica parola ebraica sia stata tradotta in modi diversi.
Le troisième cas de figure que nous avons vu a plusieurs mots hébreux correspond un seul mot grec. On le retrouve très fréquemment dans le Nouveau Testament. Nous avons pris l'exemple des mots hébreux de la racine meler qui les substantifs hébreux formés à partir du verbe meler qui sont traduits par le grec basileia. Il est très important quand on traduit par exemple le pater de se demander qu'est-ce qu'il y a derrière basileia, est-ce qu'il faut traduire le règne, le royaume, la royauté, et donc cela dépend de la conjecture que l'on fait en ce qui concerne le mot hébreu qui est derrière.
Nel terzo caso abbiamo che a più parole ebraiche corrisponde una sola parola greca, un caso che si presenta abbastanza di frequente nel Nuovo Testamento. È interessante in questo senso analizzare la radice ebraica melech, già prima proposta, che significa regnare. Varie parole derivate da questa radice ebraica sono state tradotte in greco con l'unico termine di vasileia. E questo elemento risulta di particolare interesse se pensiamo alla traduzione del Padre Nostro, nel quale possiamo inserire regno, reame o altri termini ancora, a seconda delle congetture che decidiamo di fare.
Le quatrième cas, un mot hébreu ne correspond aucun mot en grec naturel. Alors nous avons vu que dans ce cas, vous avez un système de transcription en caractère grec. Or, les quatre évangiles utilisent le même système de transcription que les traducteurs des siècles passés.
Nel quarto caso vediamo che ad una parola ebraica non corrisponde nessuna parola greca. Si è adottato in questo caso un sistema di trascrizione di parole ebraiche con lettere dell'alfabeto greco. Lo stesso sistema di traslitterazione è stato usato per i quattro Vangeli, così come per i testi della tradizione precedente.
E allora, per esempio, vous avez dans le Nouveau Testament, vous pouvez lire Pascha, Mana, Satanas, Sabbatas, Gehenna. Gehenna, che è la trascrizione dell'ebreo Gei ben Hinnom o Gei benei Hinnom, la valle dei fils de Hinnom, che non donne aucun senso, bien entendu, en grec naturel, ni dans les traductions françaises, où on trouve les fils de l'AGN, ce qui n'a strictement aucun sens pour un lecteur français, évidemment.
Nel Nuovo Testamento troviamo vari termini di questo genere, termini ebraici riscritti in greco come Pesach, Manna, Sabata, Gehenna, Gehenna, che inizialmente voleva dire in ebraico la valle dei figli di Hinnom, termine che naturalmente tradotto in modo letterale in lingua francese, così diventato figli della Gehenna, non ha alcun significato apprezzabile.
Alors, les mots grecs forgés pour traduire des mots hébreux qui n'ont pas de correspondant en grec, on les retrouve aussi. Par exemple, il y en a un qui est très amusant, un mot grec en hébreu pour l'exclamation « hoi, hoi, hoi » est transcrite en caractère grec « wai, wai, wai ». Alors, on la retrouve dans la traduction grecque de Jérémie, d'Isaïe, et vous la retrouvez, Matthieu 23, etc., dans quantité de... Vous avez la même transcription... Et vous avez tous les termes techniques de la liturgie hébraïque qui sont forgés en grec pour traduire des mots hébreux qui n'avaient pas de correspondance en grec.
Vi sono poi dei casi di parole ebraiche che non avevano nessun termine corrispondente nel greco naturale. Potrei citare un esempio divertente, l'esclamazione ebraica hoi hoi hoi, tradotta in greco con wai wai wai. La ritroviamo in Geremia, in Isaia, in Matteo 23 ed in altri testi. Nello stesso insieme rientrano anche tutti i termini tecnici che si riferiscono alla liturgia ebraica che non avevano un corrispondente esistente nel greco naturale.
Alors donc la première démonstration se résume de la manière suivante. Il est simple et facile de reconstituer le lexique hébreu-grec dont se sont servis les inconnus qui ont traduit la bibliothèque hébraïque de l'hébreu en grec à partir du 5e siècle peut-être ou sans doute et jusqu'au deuxième siècle de notre ère.
Dunque la prima dimostrazione si può riassumere come segue. È molto semplice ricostruire quel lessico greco-ebraico di cui si sono serviti i traduttori sconosciuti che hanno tradotto i testi a partire dal V secolo fino, o molto probabilmente fino al II secolo della nostra epoca.
Alors, lorsqu'on lit donc Matthieu, Marc, Luc, une grande partie du livre des Actes, la lettre aux Hébreux, l'Apocalypse, etc., on constate que tous ces livres sont écrits avec ce lexique hébreu-grec.
Se si legge Matteo, Marco, Luca, l'Apocalisse, gli Atti, le lettere agli Ebrei, si constata facilmente che tutti questi testi sono stati scritti utilizzando il lessico citato.
Cela est si vrai que lorsqu'on tombe sur une expression obscure en grec ou incompréhensible, pour retrouver le sens du mot grec, il faut retrouver hébraïques qui sont forgés en grec pour traduire des mots hébreux qui n'avaient pas de correspondance en grec.
Vi sono poi dei casi di parole ebraiche che non avevano nessun termine corrispondente nel greco naturale. Potrei citare un esempio divertente, l'esclamazione ebraica hoi hoi hoi, tradotta in greco con why why why. La ritroviamo in Geremia, in Isaia, in Matteo 23 ed in altri testi. Nello stesso insieme rientrano anche tutti i termini tecnici che si riferiscono alla liturgia ebraica che non avevano un corrispondente esistente nel greco naturale.
Alors donc la première démonstration se résume de la manière suivante. Il est simple et facile de reconstituer le lexique hébreu-grec dont se sont servis les inconnus qui ont traduit la bibliothèque hébraïque de l'hébreu en grec à partir du 5e siècle peut-être ou sans doute et jusqu'au deuxième siècle de notre ère.
Dunque la prima dimostrazione si può riassumere come segue. È molto semplice ricostruire quel lessico greco-ebraico di cui si sono serviti i traduttori sconosciuti che hanno tradotto i testi a partire dal V secolo fino, o molto probabilmente, fino al II secolo della nostra epoca.
Alors, lorsqu'on lit donc Matthieu, Marc, Luc, une grande partie du livre des Actes, la lettre aux Hébreux, l'Apocalypse, etc., on constate que tous ces livres sont écrits avec ce lexique hébreu-grec.
Se si legge Matteo, Marco, Luca, l'Apocalisse, gli Atti, le lettere agli Ebrei, si constata facilmente che tutti questi testi sono stati scritti utilizzando il lessico citato.
Cela est si vrai que lorsqu'on tombe sur une expression obscure en grec ou incompréhensible, pour retrouver le sens du mot grec, il faut retrouver le sens du mot hébreu qui était derrière.
E questo è così evidente quando troviamo delle parole oscure o incomprensibili in greco, perché per poterle capire dobbiamo risalire proprio al lessico greco-ebraico.
Puisque les quatre évangiles sont écrits avec ce lexique, c'est que les quatre évangiles ont été traduits avec ce lexique.
Dunque i quattro Vangeli sono stati scritti con questo lessico e poi sono stati tradotti con questo lessico.
Parce que si vous prenez un texte grec qui a été écrit directement en grec, le lexique hébreu-grec ne fonctionne pas du tout.
Perché se noi dovessimo prendere un testo greco scritto direttamente in greco, vedremmo che non funziona affatto il lessico greco-ebraico.
La deuxième démonstration se prend à partir de la forme de la phrase, ce que les Allemands appellent die Gestalt.
La seconda dimostrazione prende spunto dalla cosiddetta forma della frase, dall'ordine delle parole, ciò che i tedeschi chiamano Gestalt.
En français, on dit le chat mange la souris.
In francese e anche in italiano per quanto concerne l'ordine delle parole nella frase si dice il gatto mangia il topo.
En hébreu on dit il mange le chat la souris.
In ebraico si dice mangia il gatto il topo.
Et alors très fréquemment en hébreu vous avez la construction le verbe en tête au singulier suivi de plusieurs sujets très fréquents, par exemple, et il a dit Moïse et Aaron et ses fils.
Molto frequentemente in ebraico troviamo anche all'inizio di frase il verbo al singolare, seguito poi da vari soggetti. Caso frequentissimo, ha detto, cioè egli ha detto, Mosè ed Aaron e altri.
Alors, si vous lisez le texte grec de Matthieu, Marc, Luc et Jean, vous observez que très fréquemment, vous retrouvez ce système avec la faute de grec, c'est-à-dire le verbe en tête au singulier et les sujets qui suivent.
E se voi doveste leggere in greco i Vangeli di Matteo, Marco, Luca, Giovanni, vedreste quanto frequentemente si ritrova questo che in greco diviene un errore, cioè la stessa costruzione della frase con il verbo all'inizio e il soggetto dopo.
Les lecteurs français des traductions en langue française de la Bible hébraïque et du Nouveau Testament ne peuvent pas s'en apercevoir.
I lettori francesi della traduzione francese della Bibbia del Nuovo Testamento non possono accorgersene.
Ils ne peuvent pas s'en apercevoir parce que les traducteurs en langue française de la Sainte Bibliothèque hébraïque ne supportent pas l'ordre hébreu de la phrase avec le sujet en tête et ils retournent la phrase comme une crêpe depuis le début jusqu'à la fin, c'est-à-dire qu'ils la mettent à l'envers.
Non se ne possono accorgere perché i traduttori francesi della Santa Biblioteca Ebraica non sopportano questo ordine delle parole nella frase e rigirano la frase completamente, cioè la riscrivono al contrario.
Les traducteurs en langue française du Nouveau Testament grec ne supportent pas l'ordre hébreu de la phrase et donc, lorsque le verbe est en tête, ils la retournent comme une crêpe et ils mettent le sujet en tête. Et s'il y a une faute de grec, ils la corrigent en sorte qu'on ne la voit plus.
Dunque il traduttore francese rimette all'inizio della frase il soggetto, sposta il verbo in seconda posizione e così facendo corregge quell'errore che poteva trovarsi nel testo greco.
Alors, vous avez deux ou trois structures hébraïques typiques qu'on retrouve constamment dans les quatre évangiles. Vous avez par exemple en hébreu une expression constante. Voyan, voyan, voyomer. Et il a répondu et il a dit. Ce qui se traduit en grec, qu'apocritais Abraham eipen. Alors, cette formule-là, vous la trouverez à toutes les pages de la bibliothèque hébraïque. Voyan, il a répondu, Abraham, vous voyez, le verbe est en tête, voyomer, et il a dit. Traduction grecque, qu'apocritais Abraham eipen. Alors, on la trouve constamment des milliers de fois. Alors, vous ouvrez Matthieu, Marc, Luc et Jean, et vous trouvez la même expression hébraïque. Traduit de la même manière en grec.
Vi sono due o tre strutture tipicamente ebraiche che nei quattro Vangeli si ripetono moltissime volte. Ha citato l'esempio della frase ebraica e della sua traduzione greca, il cui significato è «e ha risposto e ha detto», una frase che ricorre molto spesso in ebraico con il verbo all'inizio e che è stata così tradotta letteralmente e senza modificare l'ordine delle parole anche in greco.
Une structure logique qui va demander toute votre attention, c'est la structure logique si alors.
Ora parliamo di una struttura logica che richiederà il massimo di attenzione da parte vostra. Si tratta della struttura logica se allora.
Un exemple, s'il pleut, alors je prends mon parapluie.
Ad esempio, se piove, allora prendo l'ombrello.
Alors, en hébreu, cette structure qui est extrêmement fréquente, si, alors, ou bien lorsque, alors, le mot que nous traduisons en français par alors, en hébreu c'est ve.
In ebraico questa struttura è molto frequente e nella struttura se, allora, in ebraico, la parola che noi traduciamo con l'italiano allora è ve.
Ve, ve en hébreu signifie e.
V in ebraico, però la stessa parola che significa allora, significa e, congiunzione.
Les traducteurs de la Bible hébraïque en grec, étant donné qu'ils traduisaient littéralement chaque mot, ils ont traduit le V hébreu par kai en grec.
I traduttori che hanno tradotto dall'ebraico in greco, avendo tradotto letteralmente, hanno tradotto la parola ebraica V con la parola greca kai.
Ce qui donne le résultat absurde, s'il pleut et je prends mon parapluie.
E il risultato assurdo della traduzione è se piove ed io prendo l'ombrello.
Alors quand vous trouvez cette structure logique dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, vous êtes certain que c'est une phrase hébraïque qui est derrière.
Quando trovate questo tipo di struttura logica nei quattro Vangeli, potete stare certi che dietro ci sta una struttura ebraica.
Exemple, Jean 10, 35.
On en est la troisième démonstration et la quatrième en ce moment.
Je ne sais pas.
Ça fait rien. La première, c'est le lexique. La deuxième, c'est la forme de la phrase.
Alors, la troisième démonstration, ce sont les jeux de mots.
Parliamo ora della terza dimostrazione che riguarda i giochi di parole.
Voilà, nos frères hébreux aimaient beaucoup jouer avec les mots et en hébreu, chez les hébreux depuis les origines, les noms propres ont un sens.
I nostri fratelli ebrei hanno sempre amato giocare con le parole e fin dalle origini nella loro lingua tutti i nomi propri avevano un significato.
Dans le livre de la Genèse que vous avez tous lu, vous verrez que tous les noms propres des enfants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, on leur donne un nom qui a un sens. Sarah, Ari, alors on appelle son fils Isaac.
Nella Genesi che tutti avete letto, vedete come ad ogni nome proprio che viene presentato si attribuisce un significato. Per esempio, Sara ha riso e per questo motivo suo figlio è stato chiamato Isacco.
Alors, vous avez un exemple de jeu de mots, il y en a plein dans tout le Nouveau Testament. Vous avez Matthieu 1, 21.
C'è un esempio di questo in Matteo 1, 21. In realtà è comunque pieno il Nuovo Testamento di esempi di questo genere.
Texetai de Uyen. E l'enfantera un fils, che calesseis tonoma otu Jesun. E tu appelleras son nom Jesus.
Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù.
Otosgar sosei ton laon otu apoton amarsion oton. Parce que lui, il sauvera son peuple de ses péchés.
Perché egli salverà il suo popolo dai suoi peccati.
Alors, du point de vue de l'analyse logique, cette phrase en grec n'a aucun sens. Tu appelleras son nom Jésus parce qu'il sauvera, ça n'a aucun sens en grec ni en français.
Dal punto di vista dell'analisi logica, la frase tu lo chiamerai Gesù perché salverà non ha alcun significato né in greco né in francese.
Si vous remettez la phrase en hébreu, le jeu de mots devient évident.
Se però rimettete la frase in ebraico, il gioco di parole diviene evidente.
Le grec Jesus est une transcription classique depuis des siècles de l'hébreu Yehoshua ou le l'hébreu Yeshua qui signifie Adonai sauve. Le verbe hébreu Yasha signifiant sauver.
Dunque Jesus è una traduzione greca del È una trascrizione greca della parola ebraica Yehoshua, o Yoshua, che significa Adonai salva.
Le tétragramme sauve, du verbe Yasha. Alors en hébreu, ça donne, tu appelleras son nom Yeshua, qui hu Yasha, parce que lui, il va sauver. Donc, le jeu de mots est évident en hébreu. Alors, vous faites une analyse logique élémentaire. Personne ne fait un jeu de mots dans un journal italien. Si ce jeu de mots ne fonctionne pas en italien, mais qu'il fonctionne en turc.
Dunque, esistendo nel nome ebraico Gesù il tetragramma del verbo salvare, risulta evidente che questa parola deriva dall'ebraico. Evidente perché su un giornale italiano nessuno scriverà mai un gioco di parole che non funziona in italiano ma funziona invece in turco.
Les conclusions auxquelles je parviens, c'est que donc tout le Nouveau Testament, sauf quelques textes, sont traduits à partir de documents hébreux antérieurs.
Dunque la conclusione che possiamo trarre è che tutto il Nuovo Testamento, ad eccezione di qualche piccolo testo, è tratto da documenti ebraici anteriori.
Il y a quelques cas où le lexique hébreu-grec ne fonctionne pas.
In alcuni casi il lessico greco-ebraico non funziona.
Par exemple, dans le livre des Actes, lorsque c'est un fonctionnaire romain qui parle, le lexique hébreu-grec s'arrête de fonctionner.
Per esempio, nel libro degli Atti, quando è un funzionario romano che parla, il lessico ebraico-greco non funziona più.
Je prends un ou deux exemples d'absurdité dans les traductions françaises, je ne connais pas les traductions italiennes.
Prendo uno o due esempi di assurdità nelle traduzioni francesi perché non conosco quella italiana.
Les traducteurs en langue française n'ayant pas retrouvé l'expression hébraïque, ne comprennent pas le texte. Tote procercontai auto. Et alors ils se sont avancés vers lui, vous voyez le verbe est en tête comme toujours. Et alors ils se sont avancés vers lui, les disciples de Yohanan, et lui ont dit. Vous traduisez ou c'est pas la peine si?
C'est la peine. Bene, i traduttori francesi che non conoscevano e non hanno ritrovato la radice ebraica hanno tradotto e allora egli si è incamminato verso di lui e ha detto:
Diati, pourquoi est-ce que nous et puis les Perushim nous jeûnons et tes disciples à toi ils ne jeûnent pas?
Perché noi ci vergogniamo, non ci vergogna.
Et alors, Keipen Otois ou Jésus, le verbe en tête. Et il leur a dit, Yeshua.
Et lui avrà detto.
Medunantai oioin du nymphonos. J'espère qu'il y a des rabbins dans la salle. Ils auront reconnu tout de suite l'expression hébraïque Bene Yahupa. L'expression grecque oioin du nymphonos traduit la vieille expression des rabbiniques qu'on trouve dans Pirkei Avot, les Bene Yahupa, ce qui signifie les fils de la tente nuptiale.
Spero che molti abbiano riconosciuto la parola greca che ha ripreso il termine ebraico che deriva da un'antica tradizione che indica il figlio della tenda nuziale.
La tente nuptiale, c'est la tente où les jeunes mariés passaient leur première nuit, la roupa.
La tenda nuziale è la tenda dove i giovani sposi passavano la loro prima notte.
Alors voilà, typiquement une expression, il y en a plein dans Matthieu, dans Luc, dans Marc et dans Jean. Qui n'avait aucun sens pour un goy, pour un grec, qui n'a aucun sens pour un français en traduction, d'ailleurs les traducteurs mettent n'importe quoi. Donc l'expression hébraïque, Benei Yahupa, les fils de la tente nuptiale, ils ne peuvent pas jeûner tant qu'il est avec eux le nymphios, traduction de l'hébreu Hatan. Vous pouvez le traduire ça?
Ecco dunque un esempio di qualche cosa, il figlio della tenda nuziale, che non ha nessun significato come espressione idiomatica in lingua greca o in lingua francese, e assume invece un suo significato ritornando alla radice ebraica.
La frase suivante: E le santai des merai, ils viendront les jours, come voyez, le verbe è toujours en tête, ils viendront les jours. Et il leur sera enlevé le nymphios, c'est-à-dire le ratan. Et le santai, lorsqu'il sera enlevé le ratan, et alors ils jeûneront.
Je vous lis le texte français.
Oui. Non, vous voyez le texte français, alors je le redis, hein, oui. Je le redis en français. Je retraduis tout le paragraphe. Il leur a dit, Yeshua, le verbe en tête, « Mais du nantai oioin du nymphonos, ils ne peuvent pas, les fils de la tente nuptiale, aucun sens en grec, aucun sens en français non plus. Ils ne peuvent pas, les fils de la tente nuptiale, jeûner tant qu'il est avec eux le ratan. » Je vais vous expliquer tout de suite ce que c'est que le ratan.
Et avrà detto, non potrà vergognarvi il figlio della tenda nuziale, il ratal. E poi vi spiegherò che cosa significa il ratal. Notate in queste frasi, come in quelle precedenti, che il verbo è sempre posto all'inizio.
Ils viendront les jours, le verbe en tête comme d'habitude. Lorsqu'il leur sera enlevé le ratan, et alors ils jeûneront.
Verranno il giorno quando sarà levato il retal, e allora si vergogneranno. E allora digiuneranno, scusate. Grazie.
Pardon? Non, je m'en sers jamais, je suis contre. Alors je vous explique l'affaire du ratan. La clé se trouve dans un des plus beaux ouvrages de la bibliothèque hébraïque qui s'appelle Shir HaShirim, le chant des chants.
Pensiamo a Shir HaShirim, il cantico dei cantici, uno dei più bei testi della biblioteca ebraica, della santa biblioteca ebraica.
Alors dans cette bibliothèque, dans ce livre Shir HaShirim, le chant des chants, il y a un dialogue entre le ratan, celui qui épouse le jeune marié, traduzione greca nymphios.
In questo libro c'è un dialogo fra il ratal, colui che sposa il giovane sposo,
e la kala en ebreu, traduzione greca nymphe, che è Gerusalemme elle-même personifiée.
E la kala in ebraico, che diventa in greco nymphe, che personifica Gerusalemme.
Alors regardez maintenant dans Jean chapitre 3. Jean parle le langage de Shir HaShirim, c'est-à-dire du Cantique des Cantiques. Yeshua parle le langage de Shir HaShirim, Paul aussi, voici ce que dit Jean, lorsque les Judéens sont venus vers lui et lui ont dit « Rabbi », donc ils appellent Yohanan Rabbi, « celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, lui il trempe les pénitents dans les eaux. » Traduisez. Oui. Bon, je vais faire rien, je donne la suite. Alors, regardez la formule. Apécrité, Yohannes Keipens, qui est l'hébreu, Wayahan, Yohanan, Wayomer. Et il a répondu, Yohanan, et il a dit, il ne peut pas un homme prendre, si cela ne lui a pas été donné des cieux, s'il y a de la part de Dieu, vous m'êtes témoin que je vous ai dit, moi, je ne suis pas le Mashiach. Et il ajoute ceci, Oikon tendumfen, celui qui appartient à qui, c'est ça là pour que vous allez traduire qui est important, Oikon tendumfen, celui à qui appartient la Kala. Ça vous traduisez. Celui à qui appartient la Kala.
Colui a cui appartiene la Kala.
C'est-à-dire la jeune épousée, c'est-à-dire la Nouvelle Jérusalem. C'est lui qui est le Ratan. C'est lui qui épouse. C'est lui qui est le Numphios.
Colui che ratal, colui che sposa, colui che ninfios.
O de filos tu nymphiu, l'ami du ratan. L'ami du ratan.
L'amico di ratal.
Qui se trouve dehors et qui entend sa voix, il se réjouit, etc., parce qu'il entend la voix de celui qui épouse.
Che si trova fuori e gioisce perché sente la voce di colei che sposa.
Bon, alors je termine par les conclusions. Les conclusions de mes recherches, c'est qu'en réalité, les textes hébreux qui ont été traduits en grec avec le lexique hébreu-grec traditionnel sont des notes prises au jour le jour, c'est-à-dire dans les années 27, 30 ou 31.
Ora veniamo alle conclusioni cui sono giunto con queste mie ricerche. La mia conclusione consiste nel fatto che i testi ebraici e poi tradotti in greco tramite l'uso del lessico greco-ebraico sono in realtà delle annotazioni, degli appunti presi giorno per giorno dall'anno 27 all'anno 31 circa.
Les frères de la première communauté chrétienne de Jérusalem.
I fratelli della prima comunità cristiana di Gerusalemme.
On traduit ces documents en grec.
Hanno tradotto questo documento in greco.
Avec le lexique hébreu-grec traditionnel.
Utilizzando il lessico greco-ebraico tradizionale.
Afin d'envoyer la traduction de ces documents.
Per poter inviare la traduzione di questo documento.
Aux frères et aux sœurs des communautés ébraïques de la diaspora.
Ai fratelli e dalle sorelle delle comunità ebraiche della diaspora.
En sorte que ils aient la suite et l'achèvement de la Sainte Bibliothèque hébraïque dans un système de traduction auquel ils étaient habitués.
In modo che questi ricevessero il seguito, la continuazione ed il termine della Santa Biblioteca Ebraica in un sistema di traduzione che fossero in grado di utilizzare, al quale fossero già abituati.
Alors il est très vraisemblable que par exemple Shaul, qui de son surnom hébreu s'appelait Shaul Akatan, ce qui a été traduit en grec en latin par Paulus le Petit, il est probable que Shaul Akatan, que les Français appellent Paul, se promenait sur le bassin de la Méditerranée avec un dossier de notes qui lui servait pour l'enseignement, un dossier de notes ou un cahier de notes.
Dunque è molto probabile che Shaul Akatan, che poi è stato chiamato Paolo il Piccolo dai francesi, camminasse, passeggiasse a Bessà con un taccuino, un quaderno di annotazioni.
Alors, il est possible que ce dossier de notes soit celui qui a été constitué et traduit sous l'autorité de, en grec kata, en hébreu alpi.
È possibile che queste note, questi appunti fossero tradotti da sotto l'autorità di Kata e Alpi rispettivamente in ebraico.
En l'occurrence donc l'évangile Alpi en grec Kata Lukan, c'est une possibilité. Alors pourquoi y a-t-il trois évangiles qui disent trois fois la même chose? À cause d'une loi hébraïque qu'on trouve dans Deutéronome 19:15, Lo Yakum. Il ne se lèvera pas un témoin unique contre un homme pour toute faute, alpi, chenai, edim, sur la bouche de deux témoins, ou bien sur la bouche de trois témoins, sera mise debout la parole. Si vous pouvez traduire ça, je vous félicite.
Ecco perché si ritrova esattamente la stessa parola due o tre volte. Perché si legge in ebraico nel Deuteronomio 19:15 che non si leverà testimonianza contro qualcuno se questa testimonianza non sia almeno in due o tre bocche, se si trova su due o tre bocche.
Allora, l'espressione ebraica alpi, che vuol dire sur la bouche de,
l'espressione ebraica alpi, che significa appunto sulla bocca di, sulle due o tre
bocche, traduita in greco par kata,
è stata poi tradotta in greco con la parola kata,
e significa donc, c'est un dossier qui est sous l'autorité juridique de Matatiaou, de Yohanan surnommé Marcus, ou de Luc ou de Yohanan.
E dunque vuol dire che è un dossier, un documento che si trova sotto l'autorità giuridica di, dei personaggi citati.
Ils attestent la vérité du contenu du dossier.
Essi attestano la veridicità del contenuto di questo documento.
Alors je vous signale pour terminer que celui que les Français appellent Luc et les Italiens aussi, oui. C'est ça, c'est le latin Lucas, le grec Lucios. E c'è la traduzione dell'ebreo Yair.
Vi segnalo per terminare che coloro che italiani e francesi chiamano Luc o Luca e i latini avevano chiamato Lucas, Lucios i greci, era una traduzione della parola ebraica Yair.
Qui est transcrit en caractère grec dans une lettre de Paul par Yairos.
Yair è trascritto in lettere greche, in una lettera di Paolo, dalla parola Yairos.
Alors, une des histoires les plus drôles, les plus amusantes de l'exégèse depuis deux siècles.
Una delle storie più stupide, più divertenti dell'esegesi da due o tre secoli a questa parte.
C'est l'histoire que l'on se répète, que l'on répète constamment, à savoir que Luc est un païen et un admirable helléniste ou un distingué helléniste.
È quella storia che si ripete in continuazione per dimostrare che Luca è un ammirevole pagano e grande cultore dell'ellenismo.
Alors, il suffit d'avoir lu Platon en grec quelques années et quand on lit Luc, on voit que c'est du yiddish, que c'est de l'hébreu avec des mots grecs, c'est l'évangile le plus évidemment hébreu des quatre.
È sufficiente aver letto un po' di Platone per rendersi conto che questo è in realtà del Yiddish, cioè del greco pieno di parole ebraiche.
Je vous signale aussi en passant, puisque on vous a parlé longuement de Marc, que pour connaître le sens de Marc, vous regardez votre dictionnaire latin.
Vi segnalo anche un altro caso rapidamente, visto che si è citato il termine Marco, se vogliamo conoscere il significato della parola Marco.
E allora Marcus in latin significa il marteau.
Marcus significa il martello.
Ce qui è la traduzione dell'ebreo Maccabà.
Perché è la traduzione dell'ebraico Maccabà.
Allora, le nom de Marc, Marc en réalité s'appelait Yohanan, come lo dice il libro des Actes, chapitre 12.
Allora il nome di Marco è Yohanan, in realtà, come dice il libro degli Atti, capitolo 12.
Sa maman s'appelait Mariam.
Sua mamma si chiama Mariam.
E son tonton, son oncle, s'appelait Joseph e il était lévite.
E suo zio si chiamava Giuseppe ed era levita.
Si le tonton était lévite, alors le neveu était lévite, puisque c'était une question de famille.
Se lo zio era levita, allora anche lui era levita, perché era una questione familiare.
Alors, ce Yohanan, qui avait une maison à Jérusalem, chez qui les disciples se réunissaient, puisque lorsque Pierre sort de prison, il va se réfugier dans la maison de Yohanan, surnommé Marcus Maccabà.
Nella casa di Yohanan si riunivano i discepoli, perché Pietro, uscito di prigione, vi si reca.
S'il était surnommé Maccabà, s'il a été surnommé
Maccabà, questo era soprannominato Maccabà,
une hypothèse possible, c'est qu'il appartenait à la grande dynastie des Maccabées, c'est-à-dire des Benei Hashmoneim.
Allora un'ipotesi probabile era che lui appartenesse alla grande dinastia dei Maccabei.
Alors le problème qui reste ouvert, la question qui reste ouverte et que nous ne traiterons pas cette nuit.
Il problema che rimane tuttora aperto e che non tratteremo più oltre nella notte.
Le plus ancien document que nous connaissons, le plus ancien document que nous ayons concernant l'auteur du quatrième évangile, c'est une lettre de l'évêque Polycrate d'Éphèse adressée au pape Victor.
Il documento più antico che disponiamo su questo quarto Vangelo è la lettera del vescovo di Efeso.
De Polycrate d'Éphèse, dans laquelle il dit, ce document saisissant, il dit que Yohanan est enterré à Éphèse, qu'il était Cohen et qu'il a porté le pétalon, c'est-à-dire en hébreu, comme le savent les rabbins qui sont dans la salle, tzitz hatzahaf, la lamelle d'or sur laquelle il y avait écrit Kadosh le Adonai. C'est ce que dit le Polycrate d'Éphèse au pape Victor.
Policrate d'Efeso dice a Vittorio che Yohanan è a Efeso, è Cohen e ha portato petalon.
C'est une lamelle d'or que le grand prêtre se mettrait sur le front.
Che era una lamella frontale d'oro che portava il sacerdote.
Alors la question ouverte, et je m'arrêterai sur cette question, c'est de savoir si ce Yohanan qui a reçu le Seigneur lors de
prigione vi si reca.
S'il a été surnommé Maccaba, s'il a été surnommé
e se questo era soprannominato Maccaba,
une hypothèse possible, c'est qu'il appartenait à la grande dynastie des Maccabées, c'est-à-dire des Benei Hashmonaim.
Allora un'ipotesi probabile era che lui appartenesse alla grande dinastia dei Maccabei.
Alors le problème qui reste ouvert, la question qui reste ouverte et que nous ne traiterons pas cette nuit.
Il problema che rimane tuttora aperto e che non tratteremo più oltre nella notte.
Le plus ancien document que nous connaissons, le plus ancien document que nous ayons concernant l'auteur du quatrième évangile, c'est une lettre de l'évêque Polycrate d'Éphèse adressée au pape Victor.
Il documento più antico che disponiamo su questo quarto Vangelo è la lettera del vescovo di Efeso.
De Polycrate d'Éphèse, dans laquelle il dit, ce document saisissant, il dit que Yohanan est enterré à Éphèse, qu'il était Cohen et qu'il a porté le pétalon, c'est-à-dire en hébreu, comme le savent les rabbins qui sont dans la salle, tzitz hatzahaf, la lamelle d'or sur laquelle il y avait écrit Kadosh le Adonai. C'est ce que dit le Polycrate d'Éphèse au pape Victor.
Policrate d'Efeso dice a Vittorio che Yohanan è a Efeso, è Cohen e ha portato petalon.
C'est une lamelle d'or que le grand prêtre se mettrait sur le front.
Che era una lamella frontale d'oro che portava il sacerdote.
Alors la question ouverte, et je m'arrêterai sur cette question, c'est de savoir si ce Yohanan qui a reçu le Seigneur lors de la dernière nuit, qui était Cohen, qui était parent du Cohen Agadol, c'est-à-dire Hanan, si Yohanan surnommé Marcus et lui, s'il y en a deux ou s'il n'y en a qu'un, et la question enfin est de savoir si le Yohanan qui est allé à Patmos, c'est un troisième, ou bien si c'est le même. C'est une question ouverte à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse. Je vous remercie pour votre patience.
La domanda, la grande questione che rimane aperta è sapere se questo Yohanan che ha ricevuto il Signore, che era Cohen, se questo Yohanan successivamente soprannominato Marcus era soltanto uno o se ce n'erano due o se era poi un terzo che è intervenuto. Questa è la questione che rimane aperta e chiudo qui la relazione ringraziandovi per la pazienza che avete dimostrato.